voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Bonjour et bienvenue dans tous les cinémas du monde. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Il y a quelques semaines, nous feuilletions avec Véronique Lebris son livre sur 100 grands films de réalisatrice. Utile démenti à tous ceux qui affirment que s'il y a peu de films de cinéastes femmes sélectionnés dans des festivals, c'est parce qu'il y a peu de bons films réalisés par des femmes à cet instant T. Évidemment, les choses changent, mais encore est-il utile, essentiel même conjointement, d'appeler à une révolution du regard. C'est ce à quoi s'emploie depuis maintenant des années notre invitée du jour, Iris Bray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la représentation du genre dans le cinéma et les séries. Vous avez signé les livres « Sex and the Series », plus récemment, Le regard féminin, une révolution à l'écran, qui sort en poche dans la collection Point. Et puis un livre à destination des jeunes, filles ou garçons d'ailleurs, hein, sous nos yeux. Petit manifeste pour une révolution du regard, illustration de Myrion Mal, publié chez La Ville Brûle. À l'affiche de notre cinéma aujourd'hui aussi, nous rendrons hommage à deux hommes, deux disparus la même semaine, l'acteur sénégalais Makhena Diop et le réalisateur français Bertrand Tavernier.
Putain, j'ai dormi genre 4 heures.
Moi j'ai mal aux cheveux là.
Vous étiez où en fait ?
À la débauche.
Oh non, trop de chance, c'était bien ?
Ouais.
C'est Ingrid qui nous a fait rentrer.
Enfin, c'est surtout ma cousine. Elle est en alternance dans la boîte qui organise la soirée pour son BTS communication.
Ouais, c'est sûr qu'à la débauche, elle doit bien communiquer quoi.
Mais attends, tu te rends même pas compte. Il y avait des mecs, c'était tellement beau, mais ça c'était des vrais mecs, pas des gamins là.
Ouais, il y en a un qui m'a payé des verres toute la soirée. Et on s'est roulé des pelles pendant genre une heure.
Moi, je me souviens de rien, mais c'était trop bien.
Tu te souviens de rien ?
Mm-hmm.
Même du stripteaseur à qui t'as arraché le pantalon, ça te dit rien ?
Vaguement, hein ?
Si. Parce que même qu'après, Basile, il était totalement jaloux, du coup, on est toutes toilettes. Et bon, je sais pas trop si c'est l'ambiance, mais voilà quoi, on a...
Putain, moi, ça me saoule, quoi. J'ai passé ma soirée avec Alex, on a mangé cordon bleu pâte, on a regardé une série de merde, on est partis se coucher à 23h comme des grands-pères. Vite merde, quoi.
Sinon, on peut parler d'autre chose que de cul ou de mec, non ?
Tu sais, le cul, ça fait aussi partie de nos vies, genre. C'est pas parce que toi, t'es frustrée que tu peux pas le faire qu'on peut pas en parler.
Tu crois vraiment que je suis frustrée ?
Peut-être que frustrée, c'est pas le mot, mais...
Non, je crois que le mot que tu cherches, c'est saoulée. Je sais pas. Les mecs, le sexe, les mecs. Il se passe rien d'autre de ta vie, meuf ?
C'est violent.
Vous connaissez le test de Bechdel ?
Non.
Non ? C'est pour savoir si dans les films, les personnages féminins arrivent à parler de autre chose que les mecs pendant 2 minutes.
Et alors ?
Et alors, faudrait peut-être qu'on essaye, non ? Vous croyez pas ? Peut-être essayer pendant 2 minutes ?
Ok, ouais. Ça part.
Ok.
Pour les vacances, j'ai regardé comment on pouvait y aller d'ailleurs. Bah du coup, il y a l'avion ou le train. Mais ça coûte assez rush, quoi.
Mais rush comment ?
Bah genre, grave rush. Et puis en plus de Saint-Raphaël à Ramatuel, faut prendre un bus ou un taxi, mais bon, c'est super cher quand même, donc...
Y a pas un car qui va direct là-bas, genre ?
Ouais, grave.
Ah oh non, hey, les filles, le car, là. Ça veut dire 12 heures enfermées avec des gamins qui braillent, des petits vieux et les toilettes en plein milieu. Non, mais les filles, y a forcément mieux.
Le covoiturage, sinon, mais...
Ça, c'est une bonne solution. Et j'ai une pote qui a rencontré un mec trop canon.
Stop !
Ça fait 11
meufs. Oh putain, mais c'est trop dur.
Voilà, un petit exposé fort pratique sur le test de Bechdel, un test bien connu dans les cercles féministes, mais appelé peut-être à être plus généralement diffusé. Ça, c'est dans la série pour les jeunes, un Scam, l'épisode 4 de la saison 4. Et comme vous le montrez, Iris Bray, dans votre livre, sous nos yeux, mais vous en parliez déjà dans Le regard féminin, peu de films, et en tout cas peu de films de patrimoine, passent le fameux test de Bechdel.
Oui, très peu de films et même très peu de séries. Par exemple, Lupin, qui vient de faire un carton international avec Omar Sy, ne passe pas le test de Bechdel. Pour rappeler, il faut qu'il y ait deux personnages féminins qui soient nommés, qui se parlent entre elles d'autre chose que d'un homme. Ça paraît assez simple comme ça, mais en fait, très peu d'œuvres passent le test. Et c'est intéressant que Scam utilise ça parce que, à la fois, ça nous montre que les séries font de la pédagogie pour les adolescents et à la fois qu'il y a une consciente, enfin, que la série est elle-même consciente de ce qu'elle met en scène, ce qui est toujours un groupe de femmes qui se parlent entre elles, et ça c'est aussi une représentation de la sororité, et c'est quelque chose aussi de trop rare sur nos écrans.
Alors, on avait pourtant l'impression que depuis le mouvement MeToo, les choses bougeraient. Est-ce que c'est une illusion, un effet de loupe? Est-ce que ça bouge quand même vraiment?
Je pense que ce qui se passe après MeToo, c'est qu'il y a un effet de conscientisation et qu'on parle plus de ces sujets-là. Est-ce que ça bouge dans les chiffres? Non. Ça ne bouge pas. Donc, il y a toujours eu, en fait, des représentations de femmes. Ça existe depuis le début du cinéma, en fait, tout ça. Et c'est ce que je montrais dans Le Regard Féminin. Mais c'est que aujourd'hui, après MeToo, on commence à réfléchir un peu plus à la domination et donc à la représentation de la domination masculine et aussi du désir féminin. Et c'est là où c'est intéressant. Et je pense que les séries ont notamment un rôle à jouer et jouent ce rôle-là, qui est à la fois pédagogique, d'éducation, mais aussi de nouveaux imaginaires et de nouveaux moyens de désirer.
Et ce qu'on voit aussi, c'est que toutes les vagues suscitent leur propre contre-vague, oui. Si je puis dire, hein, ce que les Américains appellent le backlash.
Oui.
Je me souviens qu'après les Césars 2020, vous étiez très optimiste sur le fait que les choses enfin étaient en train de bouger peut-être en France. Et puis là, voilà, César 2021... On s'aperçoit que Corinne Maziero arrive, se déshabille sur scène. Et tout à coup, ça déclenche une vague de violence. Il y a des parlementaires qui décident de faire des procès. Enfin, on est un peu stupéfiés. Comment vous les avez vécus, vous, ces Césars 2021
2020 et 2021, assez mal. Non, pour vous dire, je n'ai même pas regardé en fait, les Césars 2021 parce que j'ai décidé de faire autre chose de ma soirée. C'est vrai que... En fait, le fait qu'Adèle Haenel prenne la parole m'avait donné un certain espoir et aussi j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de prise de conscience collective et qu'il y avait un mouvement sororal autour de sa prise de parole. C'est pour ça que les Césars 2020 ont été pour moi un moment de réveil et de me rendre compte que c'était pas le cas en fait partout et pour tout le monde et qu'en fait il y avait une fracture et une division très importante et elle continue en France. On voit vraiment deux camps qui s'opposent et pour moi voilà il y a une garde qui ne veut absolument pas qu'on touche au cinéma de patrimoine. Ni réfléchir en fait aux représentations genrées, ni réfléchir au temps de parole des femmes, ni à leur corps. Et puis, je pense une autre partie qui en fait sont déjà des corps en mouvement. Et pour moi, le corps de Corinne Maziero ou le corps d'Adèle Haenel qui se lève, c'est des corps en mouvement. Donc c'est des corps en capacité d'agir. Et ça se voit sur nos écrans pendant nos cérémonies, mais aussi dans nos fictions. Et je pense que c'est des exemples extrêmement importants pour nous montrer que c'est en étant en mouvement qu'on peut commencer des révolutions.
Waouh. Moi, je pensais que la révolution, elle était déjà en marche.
Je pense que la révolution, en fait, comme vous le dites, c'est les vagues. Donc, on a toujours l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Je pense dans les années 70, notamment, on avait quand même une vague féministe assez forte en France avec le MLF, mais aussi avec des textes théoriques de Monique Wittig. Et puis, qu'est-ce qui se passe après dans les années 90? Il y a quand même beaucoup de femmes qui ont disparu. Et puis là, je pense qu'il y a un nouvel éveil. Donc, effectivement, moi, j'ai tendance à être optimiste et aussi les représentations que je vois m'intéressent tellement et me passionnent. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se cristallisent et qu'on arrive à voir, mais il ne faut pas sous-estimer en fait les personnes qui s'opposent au changement.
Vous, Iris Bray, dans un milieu universitaire français qui est assez hostile d'une manière générale aux gender studies, surtout quand elles s'appliquent au cinéma.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser et à forger des notions dont on parlera tout à l'heure avec Sophie, telles que le female gaze, par exemple?
En fait, moi, j'ai fait tout mon parcours universitaire aux États-Unis. Donc, j'ai fait mon bac en France et après, j'ai fait du grec ancien pendant 4 ans. Et après, j'ai fait une thèse à NYU. Donc, je suis devenue docteur en cinéma, mais j'ai été formée aux États-Unis avec, en fait, un corpus théorique qui était très français. Parce qu'évidemment, toute ce qu'on appelle la queer theory, mais même les études de genre, viennent évidemment de textes français. Donc c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire que évidemment même de Wittig et donc et tout ça et Sixou ou Kristeva, enfin donc des noms français et des textes français qui moi m'ont été enseignés aux États-Unis et évidemment moi j'ai baigné dans cette ambiance universitaire là et en rentrant en France, j'ai été surprise et choquée que certains de ces textes ne soient même pas encore traduits ou publiés, notamment le texte de Laura Mulvey qui par exemple valorise le regard masculin, a été publié officiellement en 2018. Donc voilà où Trouble dans le genre de Judith Butler a été traduit en français en 2005 alors qu'il est sorti en 89 aux États-Unis. Donc nous avons beaucoup de retard en France autour de ces notions là et puis je pense que l'université en France est de toute façon attaquée de manière générale et c'est compliqué en fait de réfléchir à toutes ces notions postcoloniales et de genre dans ce climat français là.
Attaquer, c'est-à-dire?
Oh bah, je veux dire, en France, on n'a pas le droit même d'étudier ça. Enfin, là, on a bien vu que ce soit la ministre qui s'oppose ou Macron qui a peur en fait de ce qui se passe aux États-Unis. Je pense que ça nous montre un climat qui est résistant en fait à une pensée qui est en mouvement aux États-Unis depuis longtemps. Parce que je pense qu'on a peur de cette pensée-là, qui pourtant nous invite à repenser l'histoire des dominations. Et c'est difficile, évidemment, de repenser à l'histoire des dominations, parce que je pense que ça nous appelle à réfléchir intimement à comment on les vit, ces dominations, et est-ce qu'on les perpétue, et à quel niveau on les perpétue. Donc oui, c'est un travail collectif et intime, extrêmement douloureux, mais qui me paraît absolument urgent de faire à l'université, et surtout en dehors.
Un travail de déconstruction, de révolution du regard, révolution de l'oreille aussi. Hein. Je vous propose une nouveauté musicale dans tous les cinémas du monde, L'Impératrice et ce titre Peur des filles.
Faut toujours peser ses mots, désobéir à tes désirs et t'adapter au tempo. Tu comprends pas tout, tout est trop flou, comme si t'avais bu la tasse, noyé comme tous ces idiots. Les filles, elles respirent sous l'eau, elles sont bien pires que dans Shakespeare. Elles ont des dents sous la peau, jouent les martyrs, cachent un sourire, un revolver dans le dos. Le grand méchant loup, elles sont partout, tous en montée là. C'est pas des gens comme il faut.
L'Impératrice sur RFI. Iris Bray, révolutionner le regard commence par une prise de conscience de la manipulation des images. Car si on parlait précédemment du test de Bechdel, il faut aussi pouvoir déconstruire les images, hein, puisqu'elles parlent même sans dialogue. Et c'est comme ça d'ailleurs que commence votre livre, hein, Sous nos yeux. Rien que la façon de filmer une actrice, une femme, charrie une façon de la considérer comme un objet. Vous parlez par exemple de la différence des valeurs de plan, le travelling vertical par exemple. On commence par les plans des pieds, on remonte jusqu'au visage par exemple, ces temps de réflexion. Je ne sais pas si Pretty Woman aussi a pas ce type de plan.
Ouais, bien sûr. Bah, en fait, j'essaye de montrer aux adolescents que la mise en scène nous donne un message politique et que c'est assez facile à décrypter la mise en scène. Il faut juste avoir un peu de vocabulaire et apprendre à notre œil à décrypter certaines images. Et on s'habitue tellement à voir les corps féminins filmés de la même manière qu'on fait même plus attention, en fait, à certaines valeurs de plan ou à certains mouvements de caméra qui nous indiquent, en tant que spectateur, spectatrice, que ce corps-là est désirable. Parce que c'est qu'un certain type de corps qui va être filmé de cette façon. Et donc, en fait, tout ça produit un code visuel et notre œil le reconnaît immédiatement. Mais moi, ce que j'essaye de faire avec le livre, c'est que, bah, voilà, on peut déjà le repérer. Et puis après, on peut aussi regarder des films qui n'utilisent pas ces codes visuels-là pour nous apprendre à désirer. Et que de désirer et que de prendre du plaisir, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on nous apprend et que notre culture visuelle nous apprend aussi à désirer de certaines manières.
Et vous expliquez aussi dans le livre, hein, donc qui est vraiment voilà très pédagogique à destination des jeunes, mais en fait pas que. Hein, c'est vraiment une sorte de petit vademécum. Le concept de male gaze, female gaze, est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Oui, je reprends le concept de male gaze qui est donc théorisé par Laura Mulvey en 75, qui a, elle, analysé le cinéma hollywoodien des années 50 et qui a remarqué qu'il y avait une triangulation qui s'opérait entre le spectateur, la caméra et le héros du film. Et qu'en fait, la caméra se faisait le relais du regard du héros qui prenait du plaisir en regardant des femmes comme des objets. Et qui avait donc ce côté soit voyeuriste, soit fétichiste du corps féminin. Et qu'on avait appris en tant que spectateur, spectatrice, à désirer des femmes qui étaient objectifiées par la mise en scène. Et ce que j'essaye de montrer avec Le regard féminin, qui était mon ouvrage précédent, c'était que, ben, en fait, c'est, pour moi, le regard féminin, c'est pas l'inverse, en fait, du regard masculin. C'est pas des femmes qui regardent des hommes comme des objets, mais vraiment d'être dans un nouveau paradigme, en fait, de désir qui n'est pas autour de la domination, mais qui est autour d'un regard à égalité et des films et des séries qui nous proposent, en fait, d'être dans le ressenti de l'héroïne, d'être dans son corps, dans sa tête, avec elle, et donc de ne plus regarder les femmes de loin comme de beaux objets, mais d'être dans leur peau. Et qu'est-ce que ça fait en fait quand on arrive à ressentir les expériences des corps féminins?
Et vous citez l'exemple de la série Game of Thrones à plusieurs reprises. Alors c'est une série évidemment importante, emblématique, car c'est un succès mondial. On a beaucoup aussi glosé sur le nombre important de personnages féminins forts,
oui,
mais des personnages aussi qui peuvent répondre à certains stéréotypes.
Oui. En fait, le Game of Thrones, je m'y attarde dans ce livre par la mise en scène des viols, parce que ça me semble extrêmement important que la nouvelle génération puisse comprendre que ce qui est représenté est un viol quand rien en fait nous l'indique et que c'est filmé comme une scène de sexe érotique. Et donc Game of Thrones pour moi est un bon exemple pour démontrer en fait à quel point les agressions sexuelles ne sont pas filmées comme des agressions sexuelles et que en fait en érotisant le viol, eh bien ces séries participent à la culture du viol et à la banalisation en fait des agressions qui sont faites au corps féminin.
Rick, I told you to watch. You've known Sansa since she was a girl. Now watch her become a woman.
Un extrait de la saison 5 de Game of Thrones, Iris Bray, donc le viol de la princesse Sansa par l'un des personnages les plus sadiques et pervers de la série, c'est Ramsay, hein, c'est ouais. La nuit de noces.
Oui, et puis il y a ce personnage de lui qui est obligé de regarder. Et moi, ce qui m'intéresse dans cet exemple sur lequel je m'attarde dans le regard féminin, c'est qu'on nous demande, spectateurs, spectatrices, d'être en fait dans la peau de lui et on nous impose de regarder ces scènes de viol. Et c'est là pour moi aussi une grande différence entre ce que j'appelle le regard féminin et le regard masculin, c'est que le regard masculin, cette notion de domination, elle existe aussi entre l'œuvre et le spectateur, la spectatrice, qui se sent obligé, piégé de regarder des scènes de violence sexuelle. Alors que pour moi, le regard féminin est un regard qui est à égalité, en fait. Et il y a une circulation comme un dialogue entre l'œuvre et le spectateur et la spectatrice. Et ça peut passer notamment par l'humour. Mais en tout cas, c'est des films où on ne se sent pas prisonnier, mais en liberté de dialogue.
Surtout que là, non seulement on est prisonnier, mais en plus on est avec le personnage qui est littéralement émasculé, ouais. Donc impuissant, effectivement, on est dans une situation d'impuissance, presque de jouissance perverse aussi. Hein.
Oui, c'est complètement, de toute façon, ça, c'est ce que Freud appelle la scopophilie, hein, donc c'est être dans cette position de voyeur. Et ce qui est passionnant avec cette scène, c'est qu'elle a provoqué, en fait, sur Twitter, une vague de spectateurs et de spectatrices qui se sont révoltés en disant qu'ils ne voulaient plus assister à ce genre de viol. Et c'est là où c'est vraiment passionnant les réseaux sociaux, parce que les showrunners, hein, ont les créateurs qui s'occupent aussi de l'écriture de la série, ont changé leur fusil d'épaule après ces réactions d'internautes et se sont dit qu'ils allaient arrêter de représenter des scènes de viol gratuites dans leur série.
Au-delà de Game of Thrones, Iris Breiv, vous dénoncez, enfin vous expliquez aussi qu'il y a une banalisation, souvent, pas tout le temps, évidemment, oui, de la représentation des violences sexuelles dans les films et les séries qui participent du coup à la de ce qu'on appelle la culture,
oui,
du viol.
Bien sûr. En fait, le problème c'est pas l'existence de ce regard masculin ou l'existence de ces scènes, c'est leur omniprésence. Et qu'il n'y ait pas assez de contre-exemples, vous voyez. Et le fait que ce soit omniprésent fait qu'on s'y habitue trop et qu'on ne voit même plus ça comme des scènes de violence. Sauf quand elles sont montrées du point de vue féminin, comme dans La Servante écarlate, The Handmaid's Tale, où là tout le monde dit « Ah, mais c'est une série insupportable à regarder », alors que Game of Thrones est une série beaucoup plus violente. Mais quand on montre des viols du point de vue féminin, là ça nous paraît insoutenable. Pourquoi ? Parce que ce n'est jamais montré du point de vue féminin.
Et il en va de même aussi dans la représentation de la sexualité, dans les films pornographiques, mais même au-delà, c'est toujours la sexualité masculine, oui, la jouissance masculine qui sont représentées. Oui. Et donc une méconnaissance qui participe de la méconnaissance de la sexualité féminine.
Oui, il y a un très très gros problème dans notre société autour du plaisir féminin, et c'est pour ça que dans ce petit guide pour adolescents et adolescentes, j'avais envie de m'attarder sur la question du désir et du plaisir féminin et de l'orgasme féminin, parce que même s'il est représenté depuis 1933 sur nos écrans, les dépictions de cet orgasme-là sont rares, et du coup j'ai voulu faire un top 10 des scènes de masturbation féminine, parce que je pense que c'est important d'avoir des exemples, des représentations pour pouvoir se projeter là-dedans et oser aussi partir à la découverte de son corps. Et j'ai demandé à l'illustratrice Myriam Mal de faire un dessin de clitoris, par exemple, pour que les jeunes personnes qui allaient avoir ce livre entre les mains sachent à quoi ça ressemble, parce que l'éducation sexuelle des femmes et des petites filles et des jeunes filles, je me demande où elle se fait, en fait. Et comme le clitoris est un grand absent de nos manuels scolaires et de tout ce qui est sous nos yeux, il me semblait que c'était important de remettre certaines choses à leur juste place et à leur juste valeur.
Et d'ailleurs, c'est extraordinaire, vous expliquez dans votre livre que l'orgasme féminin n'est quasiment représenté que dans les fictions LGBT queer.
Oui.
Ce qui est à la fois désolant et extraordinaire.
Bah, en même temps, les femmes lesbiennes jouissent beaucoup plus que les femmes hétérosexuelles. Donc, voilà. Bah, non, mais c'est prouvé,
c'est
en fait. Ouais. Absolument. Donc, déjà, ça peut peut-être nous mettre sur une piste. Mais en tout cas, c'est vrai que les séries qui mettent en scène des personnages lesbiens mettent beaucoup plus en scène le plaisir féminin, ça, c'est sûr. Et puis, voilà, ça reste encore très tabou. Mais il me semble que c'est important de pouvoir regarder ces scènes-là pour apprendre. Et puis pour savoir aussi que le désir féminin a autant de valeur que le désir masculin.
Alors, est-ce que le changement vient ou doit venir aussi, Iris Breiv, d'une plus grande participation des femmes à la fabrication, je pense à l'écriture, à la réalisation de films et de séries?
Alors, évidemment, c'est pas, le fait d'être femme ne va pas forcément produire une œuvre féministe, on l'a bien vu. Par contre, il y a une corrélation directe entre le nombre de personnages féminins, le temps de parole et le sexe de la personne qui crée ou qui réalise le film ou la série. Donc ça, c'est le Gina Davis Institute qui fait des recherches chiffrées. Donc ça, c'est intéressant quand même de voir qu'il y a une corrélation directe quand même. Après, évidemment, je pense que c'est une chaîne, en fait, et il faut réfléchir à quels endroits de la chaîne il y a des femmes et des femmes qui ont envie aussi de changer leur représentation. Et on voit bien aux États-Unis que ça a changé beaucoup de choses d'avoir des personnes comme Lena Dunham, comme Shonda Rhimes qui ont permis de vraiment bousculer nos représentations.
Ça pour le monde des séries.
Oui, dans le monde des séries. Oui, absolument.
Parce que vous citez des chiffres clés à Hollywood qui m'ont aussi très étonnée, en fait.
Oui.
Des chiffres récents qui montrent que 88% des films sont réalisés par des hommes, 80% réalisés par des hommes. Écrits par des hommes. Pour les Oscars, une seule femme en 91 ans a décroché l'Oscar,
oui,
c'était Catherine Bigelow.
Oui.
Peut-être une
pour
deuxième,
un film sur des hommes.
Ouais, peut-être une deuxième cette année, on ne sait pas. Claire Zhao avec Nomadland.
Oui, oui. Bah oui, mais en fait, il y a très peu de... Ça raconte tout un système, en fait, de même que, voilà, la Palme d'Or a été donnée qu'une seule fois à Jane Campion, et en plus, c'était ex aequo avec un homme. Donc, évidemment, il y a tout un truc... Enfin, ça fait partie du système. Qui est nominé? Qui remporte les prix? Par exemple, le fait qu'au Golden Globes, qui est donc une cérémonie qui récompense des films et des séries, la série de Michaela Cole, I May Destroy You, qui est une très grande série et était absente et que Emily in Paris ait été nommée, ça nous raconte quelque chose en fait. C'est-à-dire que même s'il y a certaines séries géniales qui existent, elles peuvent être invisibilisées, et notamment le fait que ce soit une femme noire qui écrive et joue dans la série, à mon avis, participe aussi d'une autre invisibilisation qui est celle aussi des femmes noires et des femmes racisées.
Ce dont on parlait il y a quelque temps dans cette émission avec Aïssa Maïga. Et puis évidemment, bah, les personnages forts, les super-héros, hein, les personnages qui sauvent le monde sont majoritairement des hommes. Même si vous citez Iris Bray dans votre top 10 du female gaze, du regard féminin, Wonder Woman, réalisé par Patty Jenkins.
Les dieux nous ont fait de nombreux présents. Un jour, tu les connaîtras tous. C'est ici que nous les conservons.
Elle est magnifique. Qui peut la manier?
Seuls les plus féroces d'entre nous en auraient le pouvoir. Et tu n'en fais pas partie, Diana. Forme-la durement. Plus durement que toute autre Amazone. 5 fois plus durement. 10 fois plus durement.
Ne baisse jamais la garde. Un combat n'est pas toujours loyal.
Jusqu'à ce qu'elle soit encore plus forte que toi.
Ah, c'est quasiment un dialogue programmatique, hein. Iris Bray ne baisse jamais la garde.
Oui, ben ça peut paraître comme ça. C'est vrai quand on l'écoute, un peu caricatural.
Bon, c'est en français, c'est pour
mais,
ça.
Mais c'est vrai que, en fait, moi j'ai eu une émotion en allant au cinéma pour voir ce film. Et c'est vrai que le regard féminin, j'ai aussi décidé de penser avec mon corps, ce qui est rare pour une universitaire, mais de me dire si j'ai une émotion aussi forte, et vraiment j'avais l'impression que mon corps était tendu vers l'écran de cinéma, c'est qu'il se passe quelque chose pour moi. Et ce qui se passait pour moi, c'était en fait de voir des femmes entre elles se battre, et cette notion en fait de non-mixité et de sororité, pour moi, de le voir à l'écran, c'était extrêmement fort. Et je me dis que je le vis pas assez souvent dans ma vie. Et voilà, et Wonder Woman qui peut paraître être une héroïne très sexy, parce que c'est vrai qu'elle a ses bottes, qu'elle est en mini-jupe, etc. En corset, la manière dont son corps est mis en scène, il n'est pas sexualisé. Et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir analyser la mise en scène et d'aller au-delà, en fait, de juste certains clichés. C'est que quand elle est filmée comme une guerrière, comme une femme en action et pas comme un objet sexuel.
Vous avez, là, c'était le premier Wonder Woman qui est sorti il y a 4 ans. Est-ce que vous avez vu Wonder Woman 1984?
Oui, je l'ai vu.
Parce que là, il est disponible. Finalement, Warner a renoncé à le distribuer en salle et il va être disponible à la location et en DVD Blu-ray dès le 7 avril. Alors, qu'en pensez-vous? Parce que j'ai lu certains critiques trouvent que l'intrigue romantique passe trop au premier plan.
Oui, je suis d'accord aussi. Enfin, moi, ce qui me passionne dans Wonder Woman, c'est quand elles sont sur l'île. Donc, en fait, il n'y a que ça qui m'intéresse. Je pourrais regarder que ça en boucle. Après, c'est vrai que le reste du film est quand même pas très intéressant, il faut le dire.
Donc, vous nous conseillez plutôt le premier, c'est ça?
Oui, ou de regarder juste ce qui se déroule sur l'île, c'est-à-dire les 15 premières minutes de chaque film à chaque fois.
Alors, votre livre, Iris Bray, est truffé de références actuelles, hein, dans des films et des séries, mais vous revenez quand même aussi sur l'histoire du cinéma, notamment la figure d'Alice Guy, dont nous parlions d'ailleurs il y a quelques temps, hein, cette femme réalisatrice des premiers âges du cinéma, injustement occultée, oubliée.
Ouais, c'est passionnant, Alice Guy, de voir son parcours et de voir aussi ses œuvres. Et c'est vrai que j'ai eu un vrai déclic en regardant un film qu'elle réalise en 1906 qui s'appelle Madame a des envies, où c'est une femme enceinte qui a des envies d'objets phalliques qu'elle met dans sa bouche. Et le moment où elle met ces objets dans la bouche, Alice Guy la filme en gros plan. Et pour moi, ça a été hyper important, cette redécouverte de ce film. Déjà parce que je l'avais jamais vu avant. Deuxièmement, parce qu'on voyait une femme enceinte qui avait des désirs sexuels et que ça, même en 2021, on ne le voit pas au cinéma. Et en plus, c'est la première, en fait, qui utilise le gros plan à des fins dramatiques. Donc, c'est-à-dire qu'elle comprend que le gros plan va nous raconter quelque chose d'une émotion. Et elle rapproche la caméra, non pas pour juste changer de style, mais parce qu'elle se dit que les spectateurs et les spectatrices vont percevoir le plaisir du personnage féminin à ce moment-là. Et donc, pour moi, c'est le premier film, en fait, de ce que j'appelle le regard féminin, parce que c'est le gros plan qui nous fait ressentir le plaisir de cette héroïne.
Et vous expliquez qu'en fait, au premier temps de Hollywood, il y avait beaucoup de femmes, enfin dans l'industrie, et qu'elles ont été finalement invisibilisées, c'est ça ?
Absolument. Les sœurs Kupperberg ont fait un documentaire sur ce sujet qui est absolument passionnant, mais c'est absolument terrible de voir en fait tous ces grands noms qui petit à petit, que ce soit Louise Weber, Mabel Normand, Dorothy Arzner, qui vont disparaître en fait, alors que c'était des figures à l'époque extrêmement importantes de l'industrie et qui ont vraiment révolutionné l'industrie. Donc, par exemple, Dorothy Arzner est la première personne qui invente la perche pour le son. Et ça, peu de personnes le savent. Donc, et ces femmes-là ont changé les perceptions, les représentations et réfléchissaient à la domination depuis le début du cinéma en France et aux États-Unis. Donc, c'est passionnant de repartir en fait sur leurs traces pour voir tout ce qu'elles ont déjà fait et tout ce qui a été oublié.
Alors, à propos de Dorothy Arzner, il y a justement un film datant de 1940 que vous citez dans votre panthéon absolu, c'est Dance Girl Dance.
Oui.
Pour gagner sa vie, une danseuse de ballet renonce à ses ambitions artistiques et rejoint sa meilleure amie dans une troupe de musical burlesque.
Go ahead and stare. I'm not ashamed. Go on, laugh. Get your money's worth. Nobody's going to hurt you. I know you want me to tear my clothes off so as you can look your 50 cents worth.
Là, donc, dans ce film, un extrait de Dance Girl Dance, Iris Bray, on entend l'actrice et Maureen O'Hara, enfin, le personnage, elle harangue le public, en fait. Elle questionne le voyeurisme des spectateurs, des hommes surtout. Elle leur renvoie leur regard.
Oui, ce qui est passionnant dans ce film et dans ce discours-là, c'est qu'on voit donc une comédienne sur scène qui arrête de jouer pour parler au public. Et en fait, évidemment, il y a une mise en abîme de le fait que Dorothy Arzner était la seule femme réalisatrice des studios. Donc déjà, elle nous raconte qu'est-ce que c'est que d'être une femme regardée et seule et scrutée. Et en même temps, ce film, pour moi, il a une résonance folle avec notre actualité et avec les comédiennes, justement, qui s'adressent à leur public et qui leur dit, voilà, moi, si vous avez envie de me regarder dans des films où je suis un objet sexuel, c'est votre droit, mais aussi réfléchissez aux représentations que vous regardez et peut-être allez voir ailleurs. Et ça, je trouve qu'il y a une résonance, en fait, sur le corps des comédiennes qui deviennent, en fait, corps social et qui nous parlent.
C'est un rare exemple de film féministe, non ? On est quand même aux États-Unis en 1940.
En fait, il y en a des films féministes, il y en a partout dans le monde tout le temps. C'est juste que c'est des films qui sont peu diffusés et peu regardés. Par exemple, j'ai découvert il y a seulement quelques mois un film qui s'appelle Le village du péché de Olga Praobrajenskaya, qui est une cinéaste russe fin des années 20, qui parle son héroïne est violée et personne dans le village ne veut la croire ou ne veut l'entendre, et elle finit par se suicider. Donc en fait, les films féministes, il y en a partout, tout le temps, c'est juste qu'ils ont peu été montrés et qu'ils sont peu dans notre histoire collective et dans notre imaginaire.
Donc vous questionnez évidemment Iris Bray, l'industrie, vous parlez de la réception, on pourrait aussi parler de la critique, puisque la critique aussi joue un rôle.
oui, bien sûr que la critique... joue un rôle très fort. Chaque pays a certaines traditions aussi critiques. Nous, en France, notre critique est composée d'hommes, majoritairement d'hommes, d'un certain âge. Voilà, et ça me pose question aussi sur qui sont les personnes qui critiquent nos images, quel est leur imaginaire, et puis aussi quel rôle, en fait, moi-même je suis critique et je me pose la question de quel rôle nous avons à l'heure des réseaux sociaux, où je pense aussi que la nouvelle génération ne lit plus les cahiers du cinéma, ne lit plus Positif, ne lit plus les Inrock, enfin ne lit plus les magazines. Donc à quoi est-ce qu'on sert et à qui on s'adresse? Et moi je pense qu'il faut absolument qu'on s'adresse à une nouvelle génération qui est bien plus en avance, à mon avis, que nous sur les questions de représentation. Et voilà, moi c'est eux qui m'intéressent. C'est la jeune génération qui m'intéresse beaucoup plus que la génération des critiques.
Mais ça pose la question quand même de qui écrit l'histoire du cinéma. Hein,
parce bien
que
sûr.
Vous avez dit un jour, je crois, que c'était le monde est peuplé de cimetières de films qui n'ont pas été faits par des femmes. Alors je vous cite très très mal, mais c'est une phrase qui m'a beaucoup émue. Parce que ça voulait autant dire, autant parler des films d'Alice Guy ou de Lois Weber qui sont sublimes et qui ont été rayés, et parfois très volontairement, des histoires du cinéma, que de tous les films qui n'ont pas pu être faits par des femmes, de toutes ces femmes qui n'ont pas pu faire carrière.
En fait, il y avait vraiment, quand j'écrivais Le Regard féminin, il y avait ce double mouvement, en fait, de grande colère quand on se rend compte que quelqu'un a été effacé volontairement, de grande tristesse face à toutes celles que je ne connais pas encore, et en même temps, une très grande joie de découvrir celles que je ne connaissais pas, qui ont fait des œuvres admirables. Et je pense à Marie-Claude Trioux, quand j'ai vu Simone Barbès ou La Vertu, qui est un film de 1980 dont j'avais jamais entendu parler, j'ai eu une émotion folle et une très grande joie, et après, la colère et après de la tristesse. Mais donc il y a beaucoup de choses qui se mélangent, et c'est vrai que quand on avait fait cette action avec le collectif 50-50 à Cannes, où on était 82 femmes à marcher sur les marches du tapis rouge pour représenter les 82 corps de femmes qui avaient foulé ces marches, je me disais c'était fou, on n'était pas si nombreuses, mais je pensais aussi à tous leurs fantômes et toutes ces femmes qui ne sont pas là et ce cimetière là et elles c'est des fantômes en tout cas qui me hantent et qui m'accompagnent.
Alors je sais pas si c'est lié, mais par exemple dans votre panthéon on trouve deux films de Chantal Akerman. Chantal Akerman, grande réalisatrice, mais dont les films justement je crois qu'ils sont peu diffusés ou peu trouvables, même en DVD par exemple.
Ouais, ils sont peu trouvables. Là par exemple, le site La Cinéthèque les a remis en ligne, et c'est fou parce qu'il y a eu un vrai engouement. Ils ont du coup continué cette programmation, ils l'ont rallongée. Donc ça nous montre qu'il y a une génération qui a envie de voir ces films, qui a envie de redécouvrir le cinéma de Chantal Akerman. Mais moi ma question c'est pourquoi est-ce que Akerman n'est pas aussi connu que Godard, alors que pour moi c'est vraiment quelqu'un qui a révolutionné le cinéma et qui a eu des gestes de mise en scène tellement forts que ça devient indélébile. Enfin, je pense qu'on voit les films de Chantal Akerman, ça marque à vie pour moi. Donc, évidemment, ça pose la question de la transmission et de pourquoi est-ce que son œuvre est moins montrée et pas assez montrée.
Effectivement, cette nouvelle génération qui vient, c'est notamment à elle que s'adresse votre livre, Iris Bray. Merci. Je rappelle son titre, Sous nos yeux, petit manifeste pour une révolution du regard, illustration de Myrion Mal, et c'est aux éditions La Ville Brûle. Votre essai, Le regard féminin, une révolution à l'écran, vient de ressortir en poche, collection Féminisme, chez Point, ainsi que l'ouvrage collectif Sororité, auquel vous avez participé sous la direction de Chloé Delhomme. Pour rester sur une voix féminine, on vous propose une nouveauté musicale, une autre, hein, c'est Lana Del Rey, Let Me Love You Like a Woman.
I come from a small town, how about you? I only mention it cause I'm ready to leave LA and I want you to come. 80 miles north or south will do. I don't care where, as long as you're with me, and I'm with you, and you let me love you like a woman, let me hold you like a baby, let me shine like a diamond, let me be who I'm meant to be, talk to me in poems and songs, don't make me be bittersweet, let me love you like you like a baby. Let me hold you like a baby.
I come from a small town far away. I only mention it 'cause I'm ready to leave LA, and I need you to come. I guess I could manage if you stay. It's just if you do, I can't see myself having any fun. So let me love you like a woman. Let me hold you like a baby. Let me shine like a diamond. Let me be who I'm meant to be. Talk to me in songs and poems. Don't make me be bittersweet. Let me love you like a woman. Take you to infinity.
Vous êtes bien sûr RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. On poursuit cette émission avec ce qui fait l'actualité du 7e art. Et malheureusement, Elisabeth, le cinéma s'est retrouvé doublement endeuillé la semaine dernière. Tout d'abord, on a appris le jeudi 25 mars la disparition du grand acteur sénégalais Makhena Diop à l'âge de 65 ans.
Oui, avec lui, c'est tout un pan du cinéma panafricain, Sophie, qui disparaît. Makhena, on l'avait découvert dans les années 90, d'abord dans les films de Moussa Touré, hein, Toubabbi et TGV, mais il avait aussi énormément tourné au-delà des frontières du Sénégal, en France, au Mali, avec Cheikh Oumar Sissoko, en Angola, avec Zézé Gamboa, hein, qui lui avait valu un prix d'interprétation au Festival de Bruxelles. C'était aussi Makhena Diop, un conteur hors pair, un amoureux des contes dont la route avait croisé celle de Catherine Ruel, hein, qu'on connaît bien dans ce studio ex-Madame Cinéma de RFI. Alors Catherine Ruel, que j'ai pu joindre ce jeudi au téléphone, et je lui ai demandé ce qui lui avait donné l'envie à Makhena Diop de devenir acteur, ce qui n'est pas complètement évident dans un pays comme le Sénégal.
Non, pas vraiment, surtout à l'époque en plus, puisque Makhena avait 65 ans. En fait, il racontait toujours dans les interviews qu'il faisait, quand on parlait, parce qu'on a fait beaucoup de choses ensemble autour du conte, avec RFI d'ailleurs, hein, et mon association Racine, on a travaillé ensemble pendant 10 ans quand même. Et Makhena racontait tout le temps, en fait, que c'était grâce à son oncle, le conteur Niorobaï, qu'il suivait partout dans Dakar ou en province, qu'il écoutait avec les yeux émerveillés en entendant ces flots de mots qui allumaient des étoiles dans les têtes des enfants. Alors évidemment, il a commencé par la carrière de théâtre, mais
et puis après, il est arrivé au cinéma. Justement, qu'est-ce qu'il a représenté pour vous, Catherine, dans le cinéma panafricain?
Le cinéma, moi, je l'ai rencontré en 1998. Donc c'était un peu un entre-deux où il n'avait pas encore beaucoup. Il avait fait les films de Moussa Touré, mais il n'avait pas encore vraiment fait une carrière internationale, en fait.
Les films de Moussa Touré, c'est TGV, ouais, et Toubabbi d'abord.
Et puis TGV, le fameux TGV où Makhena jouait le rôle du chauffeur qui s'appelait Rambo, qui était une comédie avec Bernard Giraudot, qui était assez soufflante, dans lequel il jouait donc le rôle principal, qui était le chauffeur. C'était un film qui s'est un bus movie qui se déroulait à travers tout le Sénégal avec des opposants qui étaient en guerre, etc. C'est un film assez fort de Moussa. Moi, je l'ai connu à ce moment-là et je l'ai rencontré au moment où on faisait Racine avec RFI, avec la rencontre des cinémas du monde noir. On faisait ça tous les ans. Et donc, avec Makhena, on a développé un projet autour du conte. Donc, c'est ça. Moi, je garde surtout l'image du Makhena conteur, même si je suis allée sur les tournages de Lumumba, etc., etc. Pour moi, ce sera vraiment le conteur qui va me rester dans la tête parce qu'il était extrêmement doué. Et voilà, c'était quelqu'un de très étonnant et très impliqué dans son art. Et surtout, bon, après, effectivement, il a refait des films. D'ailleurs, il rentrait d'un tournage, en fait. Mais il était très content de recommencer à tourner. Puis il allait tourner de nouveau avec Zézé Gamboa, hein, avec lequel il avait fait Le Héros, où c'était un rôle de mutilé de guerre, où il était tellement doué comme handicapé, en fait, auquel il manquait soi-disant une jambe, qu'au Sundance Film Festival, on avait demandé à Zézé Gamboa où il avait trouvé un handicapé avec autant de talent. Voilà, ça c'est Makhena. Ouais.
Merci beaucoup, Catherine Ruel, pour cette évocation de Makhena Diop.
et le même jour que Makena Diop, on apprenait le décès de Bertrand Tavernier. Et avec lui, pour le coup, c'est tout un pan du cinéma français et de la cinéphilie qui disparaissait. Ce cinéma populaire des années 70 à nos jours, hein, lui qui fit tourner Galabru, Noiret, Rochefort, Huppert et tant d'autres. Le cinéma, l'enfant tuberculeux le découvre lors d'un séjour dans un sanatorium et la passion ne le quittera plus. Assistant sur Léon Morin prêtre de Jean-Pierre Melville, Bertrand Tavernier devient attaché de presse des films des figures de la nouvelle vague, Jean-Luc Godard ou Claude Chabrol, quand il n'encadre pas les cinéastes américains de passage à Paris comme son modèle absolu, le réalisateur de western John Ford.
C'est l'homme qui, à mon avis, coiffe tout le cinéma américain. C'est le cinéaste qui m'a donné envie de faire du cinéma. J'ai été attaché de presse, j'ai passé avec mon ami Pierre Rissian une douzaine de jours à Paris, dont quand même 6 ou 7 a été consisté surtout à essayer de l'empêcher de boire et à boire les boissons qu'on lui délivrait. J'ai jamais autant bu de ma vie de B&B, de bénédictine et brandy qu'on buvait pour éviter qu'il les boive.
Où se cache le dévouement ? Bertrand Tavernier passe à la réalisation en 1974 avec L'horloger de Saint-Paul, adaptation d'un roman policier de Georges Simenon, avec Philippe Noiret et Jean Rochefort.
À l'intérieur, ça n'a rien à l'intérieur d'ouvrier.
À moins que vous ne considériez le tir à la mitraillette comme un travail manuel.
Il n'arrêtait pas de nous faire des saloperies.
Puis ce superactif n'arrêtera plus de tourner près de 30 films explorant tous les genres, policiers, documentaires, mais aussi films d'époque avec Que la fête commence, Un dimanche à la campagne ou La princesse de Montpensier, science-fiction avec La mort en direct, film musical avec Autour de minuit ou encore comédie grinçante avec Coup de torchon, Philippe Noiret, encore lui, policier lâche entraîné dans une dérive meurtrière dans l'Afrique coloniale.
À l'entrée du village, il y a un écriteau sur lequel il est marqué 1275 HA. 1275 habitants, autant d'habitants que d'âmes. Mais là-dessus, mon collègue Chavasson n'est pas tout à fait d'accord.
Eh ben, les 1275, c'est en comptant les nègres. Et les nègres, ils ont pas d'âme. Voilà.
Bertrand Tavernier aime tous les genres de cinéma.
J'ai pas fait un film sur un monde que je connaissais. Moi, c'est une de mes passions, mais vraiment de mes passions, c'est de me plonger dans un monde que je ne connais pas du tout, d'essayer de l'absorber et de le restituer. Je connais pas du tout l'armée, hein. J'ai jamais fait mon service militaire et j'ai fait La vie rien d'autre et Capitaine Conan. Je ne connaissais pas je connaissais rien sur l'école maternelle avant de faire Ça commence aujourd'hui.
Ce fou de cinéma réfute toutes les chapelles, voire revendique son admiration pour le classicisme. C'est un cinéphile partageur qui crée l'Institut Lumière à Lyon pour restaurer ou faire connaître les films de patrimoine. Son tout dernier long métrage était un documentaire, Voyage à travers le cinéma français.
Ce qu'on aime, on doit le partager. Les admirations que j'éprouve, j'aime les faire connaître à des gens qui sont proches, mais aussi à des gens que je ne connais pas.
Et finalement, l'amoureux du cinéma américain réussit à tourner aux États-Unis. C'était en 2009, adaptation crépusculaire et mélancolique d'un roman de James Lee Burke, Dans la brume électrique avec les morts confédérés. Et c'est sur la musique de Dans la brume électrique que s'achève cette émission. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré
et Sophie Torlotin, à la réalisation Fanny Renard.
On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même cinéma, pour une émission consacrée à Hippocrate, la série du médecin cinéaste Thomas Lipti.